Bonjour à tous, bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur de Jésus. C'est la fête de l'amour de Dieu qui s'est livré pour nous dans son amour infini et qui, cet amour qui ne s'est pas retiré, même au pire moment des souffrances du Christ sur la croix. Le Christ a donné cet amour jusqu'au bout sans la moindre hésitation et sans, avec le choix de libérer, d'accomplir ce sacrifice. Nous devons donc demander au Sacré-Cœur que cet amour nous soit communiqué, que l'Esprit de Dieu, comme dit l'Écriture aujourd'hui, soit sur nous, que l'Esprit soit sur nous pour obtenir la voie de la sainteté en suivant l'enseignement du Christ et en suivant aussi surtout l'exemple du Christ qui a dans son temps, tout le temps du ministère de son incarnation, n'a jamais était dans un moment de fainéantise et s'est dévoué corps et âme, il faut le dire, à sa mission qui était donnée par Dieu le Père Créateur. Il nous faut apprécier ce que dit saint Paul lorsqu'il dit que les anges de Dieu, et les trônes, les dominations, les puissances du ciel, c'est-à-dire les anges, tout ce qui entoure le céleste de Dieu, contemple l'Église, c'est-à-dire découvre l'Église, découvre ce que Dieu a voulu faire en créant l'humanité. Cette création se manifeste positivement dans ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire les gens qui sont dans la sphère du Christ, dans l'amour du Christ et qui répandent le Christ dans le monde. Je le dis souvent, lorsque nous communions à la Sainte Eucharistie, nous prenons sur nous le Christ, nous prenons en nous le Christ et donc nous sommes chargés de répandre l'amour de Dieu en étant les mains, les pieds du Christ, et l'Esprit du Christ doit habiter en nous. C'est ça la contemplation, la véritable Église de ceux qui reçoivent la grâce. Alors la grâce se reçoit en différentes manières parce que la grâce du Christ, évidemment, elle veut envahir les âmes par amour. Et c'est simplement la manière dont on reçoit cette grâce, la manière dont nous vivons notre vie chrétienne, rend la grâce plus ou moins active. Certains, les saints, ont la grâce active du Christ, c'est pourquoi on les voit faire les miracles du Christ, puisque le Seigneur l'avait promis, vous ferez des choses plus importantes encore, des miracles plus importants que ce que je fais. Et puis après, il y a la masse chrétienne qui cherche la sainteté, donc certains habitent, reçoivent le don de la grâce selon la manière dont chacun s'identifie au Christ et fait vivre le Christ en lui. Et il y a aussi des âmes chrétiennes qui sont mortes parce qu'elles se sont trop éloignées de l'enseignement du Christ et donc tout en confessant le Christ, elles ne vivent pas chrétiennement. Donc cette masse, évidemment, reçoit en vain la grâce du Christ. Et le Seigneur a dit qu'il avait beaucoup souffert de voir qu'ayant donné sa vie pour le salut des âmes, tant d'ingratitude se trouverait dans l'histoire de ceux qui, après avoir confessé le Christ, ne reçoivent pas la grâce sanctifiante et donc sont égarés à travers souvent les fautes qui viennent de la chair ou de l'orgueil de l'esprit humain qui peut être soumis à celui qui est l'ennemi du genre humain, et donc qui s'introduit par l'orgueil et puis enferme souvent les gens dans les vicissitudes de la chair. Donc nous devons, nous poser la question de la qualité de la grâce que nous demandons au Seigneur, la manière dont nous vivons la grâce. Est-ce que nous recevons la grâce? Est-ce que nous obtenons ce que les saints ont obtenu, c'est-à-dire que le Christ vit en nous, véritablement dans notre âme et dirige notre vie dans une identification amoureuse que le Christ réclame, puisque le Seigneur a dit qu'il avait soif des âmes, c'est donc qu'il a soif de chacun d'entre nous. Voilà, c'est la particularité de ce Sacré-Cœur qui a été révélé à Marguerite Marie d'une manière étonnante. Ce cœur qui a tant aimé le monde et qui, à la fin, est transpercé, qu'il en coule du sang et de l'eau, c'est-à-dire le sang, nous dit l'Écriture sainte, c'est l'âme de la vie, donc l'âme de la vie du Christ nous a été offerte, et l'eau c'est l'eau de l'Esprit, c'est-à-dire le Christ révèle aussi la puissance de l'Esprit Saint qui est toujours en action dans ceux qui passent par les commandements du Christ et qui reçoivent la lumière de Dieu à travers la puissance de l'Esprit Saint, les sept dons de l'Esprit Saint. Le Christ est la perfection, et sa naissance elle-même prouve cette perfection. Il y a un passage de l'Évangile qui a fait que des gens ont dit qu'il y avait des contradictions dans l'Évangile, pour montrer cette pureté du Christ, évidemment. Je vous raconte qu'il y a deux généalogies, une que l'on trouve dans Luc et une que l'on trouve dans Marc, qui sont les deux généalogies du Christ, qui ne correspondent pas du tout. Il y en a une qui remonte tout au roi David, mais l'une passe par Saint Joseph, c'est ce qui était promis, que Jésus serait un descendant du roi David. Et donc la généalogie de Marc et de Luc ne correspondent pas, c'est très étrange. Alors est-ce qu'il y a une contradiction dans l'Évangile? Non, pas vraiment. Il y a une manière dont l'Évangile a voulu montrer quelque chose de très important. Le Père était légalement celui qui était, celui qui affirmait la famille. Et donc la généalogie de Saint Joseph a été évoquée parce qu'il descend par Salomon du roi David. Mais il y a dans la dynastie, dans cette généalogie, un nom qui s'appelle Jiconias, qui était un roi descendant de Salomon et qui a eu une très mauvaise vie. Et le Seigneur dit qu'il reçoit une malédiction sur lui et sa descendance, et ils ne posséderont point le trône de David jusqu'à la fin des temps. Donc c'est embêtant, parce que Jésus y descend par Saint Joseph. On est dans une ornière, et donc ça contrarie le plan du salut de celui qui doit apporter, le Messie doit apporter le salut dans la descendance de David. Mais si on regarde l'autre généalogie, en réalité c'est celui de la Sainte Vierge Marie, et donc elle descend aussi du roi David, mais non pas par Salomon, mais par Nathan, son frère. Et là, on échappe à la malédiction qui tombe sur Saint Joseph, mais comme il n'est que le père putatif, qui n'est pas le vrai père de Jésus par le sang, il est le père de Jésus légalement, évidemment en Israël à l'époque, mais c'est par la Sainte Vierge que passe la royauté de David, qui passe par Nathan, et donc il atterrit sur la Sainte Vierge, et donc il n'y a pas la malédiction qui a été prononcée sur le roi Jiconias, et la Sainte Vierge donc est celle qui apporte dans son sang la dynastie qui mène au roi David, vous voyez. Et donc ça se termine sur une vierge, le miracle est là. Et s'il y a eu deux généalogies, c'était à l'intention des évangélistes, en tout cas le Seigneur l'a voulu comme ça, une qui descend du roi David par Salomon, mais qui est interrompue par la malédiction de Jiconias, sur roi Jiconias, et donc... Et la dynastie qui remonte par la Sainte Vierge, qui ne descend pas de Salomon, mais qui descend de Nathan, son frère, et qui amène la virginité de Marie et le sang pur de la Sainte Vierge qui doit engendrer le Sauveur. Vous voyez, apparente contradiction, mais en réalité, une subtilité qui fait que Dieu connaît les chemins et parfois utilise des chemins étranges pour pouvoir réaliser les desseins. Dans notre vie également, nous devons repérer parfois, lorsque nous demandons au Seigneur des choses, puisque nous sommes en requête, nous demandons au Seigneur dans notre Père, l'Othaïlan, les Nessiuno, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, ou alors en hébreu ou en araméen, la tentation peut-être aussi dans l'épreuve. Lorsque nous demandons au Seigneur de nous délivrer de certaines épreuves ou de certaines tentations, parfois, les chemins sont étranges et les tentations sont inévitables, parce que toute tentation est la preuve que l'homme peut exercer sa liberté. Donc demander de ne pas entrer en tentation est une sorte de chemin étrange qui nierait la liberté de l'homme. Au contraire, c'est dans la liberté de l'homme que l'homme obtient la sainteté. Vous voyez, le roi Jiconias, ayant contrarié Dieu, a stérilisé sa vie et à stériliser la génération qui venait de Salomon. Il n'y a pas eu de contrariété dans et les tentations qui ont éprouvé la dynastie qui est venue de Nathan et qui est passée vers la Sainte Vierge ont été les victorieux de cette famille qui progressivement, depuis le roi David, qui avait été un peu difficile par moments, mais qui avait été choisi par Dieu, qui était un simple berger, non pas un roi établi, a fait cette dynastie qui descend sur la Sainte Vierge Marie avec une progression de sainteté qui vient sur la Sainte Vierge par ses parents et ses ancêtres qui progressivement sont arrivés à une sorte de sainteté qui était le réceptacle où devait naître la Sainte Vierge Marie, dont le sang était pur à cause justement de cette généalogie qui remonte à David par Nathan. Voyez, c'est très intéressant. Et par quoi il faut exploiter les données bibliques pour pouvoir comprendre, entrer un peu mieux dans les mystères de Dieu, et qu'il n'y a pas de contradiction dans l'Évangile quand on veut bien pousser jusqu'au bout la requête de la vérité et regarder ce que le Seigneur nous donne à contempler dans les miracles qui sont dans l'Écriture sainte et les subtilités prodigieuses de l'Écriture sainte. Nous prierons aujourd'hui, si vous le voulez bien, pour Thierry Vallier, qui fut un de nos amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.